9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
On va parler de la famille, tiens, Maître Serran, et de la responsabilité des parents dans les bêtises que font leurs enfants. Quand je parle de bêtises, bien sûr, ce sont des bêtises qui tombent sous le coup de la loi. Alors, jusqu'à quand est-ce qu'on est responsable de ce que font nos enfants?
D'abord, alors, ce que vous dites est intéressant dans le terme bêtise. Vous savez, il arrive parfois que...
Conneries ou...
On a des clients, qui sont poursuivis. Et quand le magistrat les interroge et que le client a le malheur de répondre « Oui, alors j'ai fait cette bêtise », on lui met un coup de gondin sur la tête. Puis on lui dit « C'est pas une bêtise, c'est un délit ». Et c'est vrai que ça froisse les oreilles des juges quand on utilise ce terme. Donc, c'était pour rebondir à votre intervention extrêmement pertinente en la matière. Alors, le truc, c'est quoi? Il y a un principe, c'est que vous êtes bien évidemment responsable des bêtises et des délits éventuellement commis par votre enfant. Donc, que ce soit à l'extérieur, que ce soit dans un établissement quelconque, un magasin, l'école, enfin, peu importe, l'enfant est mineur, donc les parents sont solidairement, comme on dit, responsables. Donc, c'est papa et maman quand les deux parents s'occupent de vous. Il y a une vieille décision qui a été rendue il y a très longtemps, et c'est ça qui m'a assez surpris, puisque j'ai une affaire qui est tombée il y a quelque temps, je vais vous l'expliquer. Donc, il y a une vieille décision qui dit que les parents sont tous les deux responsables à partir du moment où ils vivent ensemble. Alors, il n'y a pas besoin d'être marié, mais à partir du moment où on vit ensemble, à partir du moment où on est sous le même toit, en tout cas, à partir du moment où on considère que le couple est un couple qui, entre guillemets, se partage les tâches, si vous avez des enfants, tous les deux, vous êtes responsables. Donc, si une bêtise, un délit, peu importe, est commis, en règle générale, quand le couple est ensemble, on a une seule et même compagnie d'assurance, donc on prévient sa compagnie d'assurance, et puis c'est la compagnie d'assurance qui fait en sorte d'indemniser la personne, le magasin, enfin peu importe, de réparer, comme on dit, le préjudice. Et puis il arrive que le couple se sépare. Donc à partir du moment où vous êtes séparés, alors très souvent chacun va prendre sa propre compagnie d'assurance, mais à partir du moment où vous vous séparez, si une bêtise, si un délit est commis par l'enfant commun, qui est responsable?
Ah, vous divorcez pas de vos enfants?
Alors, on ne divorce pas de ses enfants, sauf que il y a ce qui s'appelle la notion d'autorité parentale, donc qui reste commune, vous êtes tous les deux responsables, mais il y a ce qu'on appelle l'attribution du domicile conjugal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que, soit décision de justice, soit dans les faits, qu'un magistrat a décidé d'accorder le domicile de l'enfant chez maman ou chez papa, peu importe, c'est celui qui accueille l'enfant, on va dire, à plein temps, qui est désormais responsable. Quand bien même l'enfant irait le week-end chez son père, on va prendre cet exemple-là parce que c'est l'exemple le plus courant. À partir du moment où le domicile officiel est chez maman, et ben s'il se passe une bêtise, quelle que soit la nature de la bêtise, quelle que soit la nature du délit, c'est la mère qui est responsable et donc la compagnie d'assurance de la mère. La vieille décision nous explique tout ça, sauf que à partir du moment où ça peut arriver, et c'est le cas d'espèce que j'ai évoqué, qui a été statué par la Cour de cassation, la plus haute juridiction en France, à partir du moment où le couple est, on va dire, officiellement séparé, mais que le couple reprend une vie commune, ça peut arriver. Si ça vous gratte là où je pense, ça peut vous arriver de vous rapprocher de madame et madame de monsieur. À partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous êtes sous le même toit, quand bien même le couple a divorcé, s'il se passe la moindre bêtise, les deux assurances du père et de la mère peuvent être mises en cause. Et le litige est parti à partir de quoi? À partir du moment où l'assurance du père, mise en cause, vient dire, mais attendez, le couple s'est séparé. L'enfant, officiellement, ce qui est vrai, il y a une décision de justice, vit avec sa mère. Pourquoi moi, vous m'appelez pour réparer le préjudice? C'est monté jusque devant la Cour de cassation, et la Cour de cassation a pris acte que le couple, certes, était officiellement séparé, mais qu'à partir du moment où ils ont repris une vie commune, quand bien même il n'y aurait pas une constance dans le fait de reprendre une vie commune, on considère que la responsabilité du père est absolument la même que la responsabilité de la mère, et donc les deux compagnies d'assurance ont été mises en cause.
Alors, j'aime beaucoup comment vous faites le geste, hein, et c'est dommage qu'on ne soit pas filmé, ouais. De repris la vie commune.
Ouais, c'est pas mal ça.
Hein, c'est bien.
C'est vrai. On devrait peut-être
vous devriez être filmé parce que.
Mais pas le visage.
Vous avez une
pas...
gestuelle ouais, qui est adaptée ouais. à toutes les situations.
C'est vrai, c'est hein vrai. Mais pas incroyable. Le visage. On est d'accord. On peut mettre ça sur le contrat.
Bien.
S'il vous plaît.
Donc, ça, c'est une vieille décision. Donc...
Alors, ça, c'est une vieille décision. Ouais. Et puis, alors, évidemment, il n'y a que les juristes, entre guillemets, qui connaissent ça. Et puis. J'ai un client donc qui est venu me consulter, qui me dit qu'il vit pas avec, enfin qu'il est séparé. Ils n'étaient pas mariés, ils vivaient en concubinage avec madame, mais qu'il a repris.
Ça les avait grattés tous
voilà,
les deux.
Ça, t'as tous les deux.
Comme
ça,
vous aviez
ça,
dit, oui.
Oui, enfin je reprends votre vieille expression, donc ça grattait là où ça devait gratter, et donc il est revenu chez son ex. Et puis l'enfant a eu la mauvaise idée d'être à l'origine d'un incendie, donc il y a une dizaine de voitures qu'ont pris feu, donc ça fait quand même des sous à débourser. Ouf. Et il était venu me voir pourquoi, pour me dire mais voilà, moi je suis responsable de rien puisque l'enfant vit avec sa mère. On a échangé quand même, j'ai cru comprendre et il me l'a confirmé que la vie commune est une vie qui est reprise avec madame et que de deux choses l'une, soit entre guillemets personne ne balance, c'est-à-dire que personne ne dit bah oui je suis revenu avec madame et il y a que la compagnie d'assurance de madame, soit il y a des fuites, et éventuellement des fuites de la part de madame, puisqu'on sait très bien qu'une femme qui vous a trahi, en règle générale, c'est dans l'ADN, elle retrahit à nouveau. Donc si elle vous balance, non mais là...
On est en 2022, vous ne pouvez plus dire ça.
C'est vrai, je ne peux plus dire ça.
Normalement, il y a des bips qui interviennent, mais à la réalisation, ils n'ont pas été briefés.
Il n'est pas habitué à... Si, il me dit que si. Ouais. Et donc à partir du moment où la trahison, entre guillemets, pourrait venir de madame, moi j'ai invité monsieur, donc elle n'a rien caché. Aux compagnies d'assurance et à mettre en cause sa compagnie d'assurance. Et puis, dans l'absolu, j'allais presque dire, on s'en fout. C'est-à-dire que le fait d'être assuré, ça sert aussi à ça. Et donc, moi, j'ai du mal à comprendre ceux qui essaient de préserver absolument leur compagnie d'assurance. Vous payez, vous arrive un sinistre une fois tous les 10 ans, ben, faut bien amortir ce que vous avez payé pendant 10 ans. Donc voilà, mais faut vraiment faire attention à ça, encore une fois, hein. Le c'est pas parce que vous êtes séparé de la mère que vous êtes aucunement responsable civilement. Voilà, c'est une responsabilité civile et en particulier si vous décidez de reprendre
fou,
une vie commune.
Il faut quand on est parents à vie.
On est parents à vie, ouais.
À vie. Voilà, ouais,
c'est vrai.
Il y a pas de
ouais. Quel que soit l'âge des enfants, c'est ce que vous laissez entendre ou jusqu'à 18 ans
vous
et
en
stop, ça
au moins jusqu'à 30 ans ouais. et des poussières.
Ouais, ouais, ouais. Moi je crois que c'est ad vitam aeternam.
Oui, mais quand vous serez vieux, ouais. Qui c'est qui paiera pour votre maison de retraite?
Les enfants, vous pensez?
Normalement, on taxe les enfants, non?
Ouais, la génération actuelle, non. Je crois qu'ils s'en foutent royalement. Franchement.
C'est vrai?
Et bon,
vous avez tous ces enfants pour rien? Il n'y en a pas un qui va payer?
Je vais pas terminer sur cette conclusion, mais je me dis, et je vois comment moi je me suis comporté à l'égard de mes parents, là, et l'Ahmum, je veux dire, il y a. Enfin voilà, entre guillemets, on s'investissait quand même pour nos parents. Là, il y a une sorte de dilettante de la part des enfants, mais je crois que c'est générationnel, ils s'en foutent un peu, quoi.
C'est un vrai sujet, ça, ouais. On en reparlera un jour.
Ah bah, ouais.
On va à Toulouse pour l'instant, et c'est Edine qui est avec nous. Edine.
Oui, bonjour Philippe. Bonjour Maître Serin.
Bonjour Edine.
Oui. C'était juste pour un petit renseignement, là. J'ai une cousine qui vit en Algérie et qui est de père français. Elle a déposé à Paris au tribunal administratif d'une demande de certificat de nationalité française.
Ouais.
Et ça traîne depuis plus de 2 ans.
Alors, vous avez utilisé le terme de tribunal administratif qu'on va laisser de côté. C'est effectivement le service de la nationalité française. Pour toutes les personnes qui demeurent à l'étranger, ce service de la nationalité française a ce qu'on appelle en droit une compétence exclusive. C'est-à-dire qu'il n'y a que ce service qui s'occupe de ces personnes-là. C'est effectivement à Paris. C'est pas loin du nouveau palais de justice, Porte de Clichy. Alors, c'est particulièrement long. Particulièrement long, pas parce que les personnes qui gèrent ce type de dossier sont ou seraient des personnes feignantes, mais il y a eu une explosion des demandes de certificat de nationalité française de la part des compatriotes algériens. Donc une explosion. Donc effectivement, ça nécessite quand même beaucoup de temps pour pouvoir examiner tout ça. On examine notamment les actes d'état civil, puisqu'il y a aussi des faux documents qui ont circulé, donc on essaie de vérifier si, si tout ça correspond à une certaine réalité.
Alors, puisque c'est naissance du père à la sortie de Nantes.
Ouais, mais encore une fois, c'est, vous savez, c'est normal, mais moi j'ai entre guillemets le même problème au cabinet, où on me dit, ah, mais maître, c'est long. Parce que chacun ne pense qu'à son dossier. Mais je peux vous assurer que des demandes de certificat de nationalité française, il y en a des tonnes. Donc il faut aussi prendre ça en considération, hein, même si c'est compliqué, même si le temps que vous me donnez est un temps particulièrement long. Alors faut pas hésiter à les relancer. Ce qui arrive parfois, c'est assez surprenant, mais j'ai eu souvent le cas, c'est-à-dire que on relance, en qualité d'avocat, on relance les services. Ouais. Et puis les services vous disent, mais attendez maître, nous on a déjà répondu. Vous savez, quand vous prenez un avocat, en fait, le service de la nationalité vous donne pas la réponse à vous, avocat. Nous, on reçoit un courrier pour dire, écoutez, on a apporté une réponse à votre client. À charge pour nous de nous rapprocher de notre client. Et assez régulièrement, le service de la nationalité me dit, mais maître, voilà, vous nous relancez, mais nous, on a déjà répondu à votre client. Donc, ils envoient le courrier au pays, puisque les uns et les autres sont domiciliés au pays. Et alors je sais pas si l'équivalent de la poste au pays est performant ou pas, mais très souvent les correspondances n'arrivent pas à destination. C'est-à-dire que quand j'appelle le client pour dire attendez, j'ai un courrier du service de la nationalité qui me dit que vous avez déjà eu une réponse et parfois il y a 6 mois ou il y a 1 an, le client me dit mais maître, nous on n'a rien reçu. Alors
oui, mais maître, aujourd'hui, il communique par email, alors.
Hein. Non, monsieur, on reçoit pas. Oui, mais on reçoit pas de décision du service de la nationalité par mail. Même si le système d'accord. Ouais, voilà. Hein. Alors, effectivement, ça pourrait être plus simple. Mais vous recevez un courrier par la voie classique, et vous recevez pas de réponse par mail. Hein. Donc ça, c'est important. D'accord, et je vous dis, même quand vous êtes avocat, on reçoit un courrier toujours voie classique. Pour nous dire, maître, on a répondu à telle date à votre client, merci de vous rapprocher de lui. Donc, ça vaudrait peut-être le coup que l'intéressé relance quand même le service. Ouais. Alors, je dis pas que le service de la nationalité va lui dire, on a déjà répondu, mais ça peut être le cas.
D'accord.
Donc, il faut les relancer.
Pour vous, c'est normal que ça prend plus de 2 ans, là.
Alors, vous savez, monsieur, enfin pour le client, 2 ans, c'est par définition pas normal. Mais dans ce type de dossier, malheureusement, c'est la pratique assez classique. Et je le redis encore une fois, vous savez, quand l'administration fait n'importe quoi, on est les premiers à le dire. Mais là, en l'occurrence, ils ont beaucoup de boulot. Comme d'habitude, il n'y a pas suffisamment de personnel, et donc ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Alors oui, ça prend du temps. Et puis c'est pas une priorité non plus. L'État va pas se donner les moyens pour éventuellement traiter des dossiers pour demain dire ben un tel est de nationalité française. Donc vous voyez, c'est pas la priorité non plus de l'État français de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes de l'autre côté de la Méditerranée qui soient demain qualifiées de personnes de nationalité française. Donc je l'entends, hein, je le comprends, voilà. Mais donc oui, c'est long. Mais malheureusement, j'allais dire avec de gros guillemets, c'est normal en la matière. Encore une fois, c'est pas parce que l'administration est feignante, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dossiers de personnes de nationalité algérienne invoquant cet aspect-là. Donc, à part relancer, malheureusement, il y a rien d'autre.
D'accord.
Voilà. Et je termine juste pour dire que souvent on me dit, mais est-ce qu'on peut saisir un tribunal? Non, on ne peut saisir le tribunal que si on reçoit une réponse et que si évidemment cette réponse est négative. Ensuite, c'est le tribunal judiciaire. C'est le grand palais de justice, là encore à Paris, qui a une compétence exclusive. Mais tant que le service de la nationalité n'a pas répondu, même quand vous avez un avocat, à part des relances, on ne peut rien faire d'autre. On est obligé d'attendre.
D'accord.
Voilà.
Je vous remercie, maître. Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour cet appel. Si vous avez des questions à poser à maître Serran, eh bien, vous composez pendant la pause le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Allez, vous pouvez poser vos questions juridiques à Maître Serran en direct au 01 53 48 3000 qui répond et qui a toutes ses facultés intellectuelles en dépit de la chaleur.
Il fait chaud, effectivement.
Hein, Maître Serran, vous n'êtes pas impacté par la canicule ?
Non, je dors toujours. Toujours. Donc la chaleur ne m'impacte pas.
On a Jamel qui est avec nous au 01 53 48 3000. Jamel, bienvenue.
Oui.
Bonjour. Allô, Jamel. Oui.
Bonjour, maître.
Bonjour, Jamel.
Bonjour, maître.
Bonjour, Jamel.
Oui, je vous écoute.
Ben, moi aussi.
Voilà, je suis citoyen français, binational, bien entendu.
Ouais.
Français. Je suis retraité. Je suis père de 4 garçons, dont 3 sont venus en France étant binationaux. Et je suis divorcé en Algérie. Et j'ai abandonné un garçon là-bas.
D'accord.
Ça devient vraiment un abandon et j'ai besoin de... C'est-à-dire qu'il a besoin de me voir et j'ai besoin de le voir aussi. Et on lui refuse tout visa, alors que, à ma connaissance, la réglementation, elle dit qu'il a droit à un titre de séjour vie privée et familiale.
Alors, c'est le terme abandon. Quand vous dites abandon, c'est quoi? C'était, bon, alors il est resté non. Là-bas, mais vous avez quand même des contacts ou alors vous vouliez plus le voir? C'est dans quel
j'ai
sens?
Des contacts, sauf que moi, je ne peux pas rentrer en Algérie. Moi, je suis un opposant politique en Algérie. J'ai été opposant politique.
D'accord.
Donc, voilà, on lui refuse le visa. À chaque fois, on lui refuse le visa pour venir. Moi, j'ai besoin de voir.
D'accord. Le motif qui est invoqué, monsieur, c'est quoi? Quand on refuse le visa, qu'est-ce qu'on lui dit? Vous savez, il y a des petites cases et ils mettent des petites croix. On lui dit quoi?
Non, il ne donne aucun argument.
Alors, normalement, alors, d'abord, est-ce qu'il a reçu un courrier pour dire on vous donne pas de visa?
On lui envoie un message. Votre demande a été rejetée.
Alors, ça me semble assez particulier. Alors, vous avez bien compris, je remets pas en doute ce que vous êtes en train de dire, mais en règle générale, quand les autorités consulaires refusent l'attribution d'un visa, on reçoit un courrier et il y a des petites cases avec mille et un motifs et l'administration se contente de cocher une, deux, trois cases, peu importe. Très souvent, c'est dire, attendez... Il n'y a pas suffisamment d'éléments qui prouvent que vous allez revenir au pays, ou vous n'avez pas suffisamment d'argent pour pouvoir rester 15 jours, un mois sur le territoire français. Mais j'ai pas de client qui serait venu me consulter en disant, écoutez, j'ai reçu un mail, on me dit non. On reçoit à minima un petit courrier quand même, pour dire pour quel motif.
Non, les dossiers sont rejetés automatiquement puisque ça se fait électroniquement. Ça se fait,
Monsieur, alors sauf si les clients qui m'envoient leur réponse négative par mail, mais ils ne les reçoivent pas électroniquement. Bon, alors écoutez, passons outre, mais dans ce cas-là, suffit ou il suffirait d'imprimer ce refus électronique, et puis il n'y a pas mille options. C'est-à-dire qu'ensuite, là... Le service qui est compétent est un service qui se trouve sur le territoire français à Nantes. C'est la commission contre les refus de visa qu'il va falloir saisir. Cette commission dispose d'un délai de 2 mois. Alors, soit pour apporter une réponse express, c'est-à-dire qu'on vous dit, alors oui, on vous dit non, mais c'est écrit.
C'est à Nantes.
Ouais, c'est à Nantes, tout ça se passe à Nantes. Et si au bout de 2 mois, la commission vous a pas répondu, c'est ce qu'on appelle un refus implicite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont saisis, ils ont 2 mois. Si au bout de 2 mois, il n'y a pas de réponse, c'est que c'est non. Et dans ce cas-là...
Voilà, on est obligé. C'est forcément non.
Ah oui, voilà, ça faut le savoir.
C'est pas un oubli ou un retard de traitement.
Non, c'est pas un oubli. C'est ce qui fait qu'il faut toujours envoyer les recours en recommandé AR. Toujours, toujours, toujours. Et à partir de l'expiration du délai de 2 mois, s'il n'y a pas de retour, on considère que c'est refusé. On appelle ça un refus implicite. Et dans ce cas-là, ça ouvre une autre possibilité, c'est la saisine du tribunal administratif de Nantes, toujours. Il n'y a que Nantes qui s'occupe de ça.
Ok, d'accord. Parce que, d'autant plus que son extrait de naissance, je l'ai transcrit à Nantes.
Ce qu'il faudrait peut-être que l'argument qui consisterait à dire, écoutez, il faut qu'il vienne parce que moi je suis blacklisté par les autorités algériennes. Si recours il doit y avoir, c'est peut-être une chose intéressante qu'il faudra mettre en avant. Alors, sous réserve évidemment d'avoir des preuves et autres, il suffit pas juste de dire, écoutez, voilà, je suis persona non grata au pays. Mais si vous pouvez éventuellement l'établir, alors je sais pas, il y a peut-être des articles et autres, mais si vous pouvez l'établir, ce sera quand même un argument intéressant.
Oui, ça a été établi dans la mesure où quand je suis arrivé dans les années 90, j'ai été reçu par l'abbé Pierre, et c'est l'abbé Pierre lui-même qui m'a fait toutes les démarches.
On va lui demander de témoigner.
L'abbé Pierre, ouais. Il est en...
Ah zut, oui. De l'au-delà, de l'au-delà. Oui, non, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que
Pas de mécréance.
Non, c'est vrai. Non, mais en plus, type sympa, l'abbé Pierre.
D'accord. Ok.
Vous comprenez.
En plus, j'ai été son médecin personnel.
D'accord. Bon, écoutez, mais on va pas vous croire sur parole. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est important. Mais je crois que cet angle d'attaque peut être intéressant. Il a quel âge, l'enfant?
L'enfant, il a 35 ans maintenant.
D'accord. Et il fait quoi au pays? Enfin voilà, je sais pas, il est marié, il a des enfants, il a un boulot?
Non, il est célibataire et il est commerçant.
D'accord. Alors, vous savez, le très souvent, je dis pas que c'est toujours justifié, mais très souvent, pourquoi est-ce qu'on refuse les visas? On considère que la personne qui, entre guillemets, n'a pas d'attache particulière au pays, je vais l'autoriser à venir pour un temps déterminé, puis elle ne repartira plus. Donc il y a cet aspect-là, c'est ce qui fait que très souvent c'est refusé.
Non, il vient pas pour s'installer, moi bon.
Non, mais enfin, monsieur, moi il y a jamais personne qui me dit on vient pour s'installer. Mais je comprends ce que vous dites, mais les autorités françaises considèrent qu'elles se sont faites tellement de fois bluffer que quand on vient dire je viens pas pour m'installer, on finit par plus croire les personnes qui disent ça. C'est aussi la difficulté.
Bon, mes enfants, ils ont été les trois autres ont eu des visas d'installation pour études.
Et ils sont où là?
Hein?
Et ils sont où là? Ils sont repartis après leurs études ou pas?
Ils ont fait des études ici, ils ont été naturalisés. C'est de grands cadres maintenant.
Ouais.
C'est de grands cadres, c'est des ingénieurs.
Non mais voilà, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que qu'on vienne pour des études ou pas, et quand on peut être naturalisé, c'est prévu par le droit, donc légitimement, il y a au sein des administrations, on considère qu'à partir du moment où on autorise quelqu'un à mettre le pied sur le territoire français, la probabilité pour qu'il reparte, elle est infinitésimale. Alors je dis pas que c'est bien, puisqu'après ça se conteste devant les juridictions, mais très souvent il y a ça derrière. Hein. Mais essayez peut-être encore une fois de mettre en avant le fait que le retour au pays pour vous est désormais impossible. Ça peut peut-être être jouable sur ce terrain-là.
Ok, d'accord. Je vous remercie.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, bonne journée.
On accueille Fanny, qui est avec nous, Maître Serrano, 01 53 48 3000. Fanny, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. J'avais une question, parce que j'ai travaillé avec un employeur pour qui j'avais déjà travaillé. À la base, elle m'avait signé un compromis d'embauche. J'ai commencé à travailler à la date du compromis d'embauche, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, elle m'avait versé 500 euros sur tout le mois d'avril.
Et combien le salaire initial?
Initial net, 2700 euros sur la promesse d'embauche.
D'accord.
Voilà. Donc, sachant que je n'avais pas forcément les qualifications pour ce poste-là, qu'elle était en connaissance de cause, puisque j'avais déjà travaillé sur une autre société qu'elle gérait avec deux actionnaires. Donc, elle connaissait ma qualification ou autre. Donc, c'était son choix de m'embaucher. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je me suis aperçue qu'au sein de son groupe, elle a différentes filiales, dont une qui devait aider les personnes à régulariser, à monter des dossiers de régularisation du fait qu'ils étaient sans papier. D'accord? Les dossiers ne bougeaient pas. Donc, moi qui étais en charge de ces dossiers-là, avec cette personne-là, puisqu'elle connaissait plus le domaine que moi, j'ai essayé de parler avec, et elle a toujours, en fait, reculé l'échéance pour faire avancer les dossiers des clients. Donc, sachant qu'ils avaient déjà versé la moitié de leur devis, pour éviter, en fait, du fait qu'ils m'avaient rencontré que moi, je tenais pas à ce qu'ils versent l'autre partie du devis tant que leur dossier n'avançait pas, ce qui était logique pour moi. Donc, je les ai alertés par rapport à ce problème-là, ce dysfonctionnement-là de l'entreprise.
Mais c'est, et alors, ce que vous me dites là, ça, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que, on est d'accord, il y a un salaire d'à peu près 2000, un peu plus de 2500 ou 2700 euros qui doit être versé. On vous donne 500 euros. Et vous me dites que, alors, vous avez alerté X ou Y. C'est quoi, ce serait lié, ces deux aspects-là?
Ben, pour elle, oui, parce que vu que les dossiers n'avançaient pas.
D'accord, donc elle vous dit, ben, fallait pas les prévenir.
Alors, qu'elle devait informer sur ces. Eh ben, elle a signé, elle a envoyé un message au client en disant par laquelle, en citant mon nom et prénom, par laquelle, en gros, je suis une escroqueuse et que j'essaye de reprendre les clients sous une autre société à mon nom. Pour pouvoir me faire payer, alors que les clients, je les ai rencontrés, je leur ai dit que moi, il était hors de question de poursuivre dans des conditions pareilles, de toute façon.
Ça, ça faisait partie de vos compétences, madame, ou pas de, est-ce que c'est vous qui gérez l'aspect financier de ces dossiers-là?
En fait, je gérais. Elle m'avait fait une promesse d'embauche en tant que gestionnaire de ces sociétés.
D'accord. C'est-à-dire que, alors ma question est simple. C'est-à-dire que, je vais vous dire pourquoi je vous pose la question. Alors d'abord, si un salaire qui était prévu et que vous êtes payé largement en deçà de ce qui était prévu, vous pouvez toujours demander. C'est une, là encore, tout le monde va dire, Maître Serre utilise tout le temps le même terme. C'est une procédure de référé, mais devant le conseil de prud'homme. Oui. Donc ça, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ce qui m'inquiète davantage, c'est que, alors d'abord, elle envisage de vous licencier ou elle vous a déjà licencié ou pas encore?
Non, parce que pour le coup, elle m'a pas fait signer. Il y avait que la promesse d'embauche.
Peu importe, madame. À partir du moment, voilà. Peu importe. À partir du moment où vous entamez le votre boulot, qui est une promesse d'embauche ou pas, on considère
c'est
que vous avez
moment
été,
vous avez travaillé au moins un jour. Été,
oui, salarié de la boîte. Donc, elle peut pas dire maintenant, mais c'était une promesse. Donc, à partir du moment où vous avez commencé, le salaire est dû et elle doit vous licencier.
Et puis du fait que je suis en partie aussi en partie auto-entrepreneur à mon compte hein, et qu'elle m'a demandé de faire cette facture là sur ma société, comment je peux rebondir du coup?
Ouais, mais ça, vous savez, ce statut d'auto-entrepreneur, il pourrit la vie de tout le monde. C'est-à-dire que les personnes qui sont entre guillemets en position de force imposent parfois en disant je suis prêt à travailler avec vous, mais sous réserve que vous ayez un statut d'auto-entrepreneur, ce sera considéré comme une facture non réglée. Vous voyez, ce sera pas, en tout cas cette partie-là, ce sera pas considéré comme un salaire dû. Ça, c'est autre chose.
D'accord.
Mais c'est votre statut d'auto-entrepreneur, on va dire une société qui demande à une autre société de lui payer ses factures.
D'accord.
Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle pourrait vous mettre en cause en disant, entre guillemets, que vous avez saboté un peu son activité.
D'accord.
Et ça peut être embêtant. C'est-à-dire qu'elle pourrait dire, voilà ce qu'elle a dit, alors mensonge ou pas mensonge, ça c'est autre chose, mais ou elle a essayé de me dénigrer. Et elle pourrait se retourner contre vous, voire même demander des dommages et intérêts s'il y a eu des conséquences sur sa clientèle.
Alors moi, en fait, j'ai juste prévenu la clientèle d'attendre que leur dossier avance, qu'on s'entende bien, que tant que la première partie qu'ils ont versée et que leur dossier n'a pas du tout bougé...
J'entends, madame, mais est-ce que vous aviez l'accord de cette personne? C'est ça le truc? Ouais, là, vous gérez pas vos propres dossiers.
Oui, oui.
Voilà, vous gérez les dossiers d'une société. Est-ce que vous aviez l'accord de dire ça?
C'est un silence,
coup,
là.
Je sais pas, ça peut être porté à confusion, puisqu'elle me déléguait plusieurs tâches où elle me demandait de prendre des responsabilités au sein de ces diverses filières.
Non, sur le moins, encore une fois, je peux comprendre, hein, c'est généreux de votre part, mais vous êtes mis en faute toute seule sur ce terrain-là, malheureusement.
Maître Serrane, vous poserez vos questions en direct dans un instant. Je rappelle le numéro du standard de C'est tout droit, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, là, Maître Serrane vient de découvrir qu'il allait demander de l'argent à Tariq, parce que c'est vrai qu'il inspire un petit peu,
c'est des
sources d'inspiration de son spectacle à Tariq, et Maître Serrane ne touche rien.
Exactement, ça m'inspire beaucoup. Mais en fait, quand je suis parti au tribunal, il y a quelques années, pour un divorce, eh ben, en fait, il y a un mec qui est venu se défendre tout seul. Et il avait pas d'avocat et c'était tellement drôle. Et mais j'ai parodié dans le spectacle, mais j'imaginais trop le mec se défendre en disant objection votre honneur, obstruction monsieur l'arbitre.
Tu sais que ça c'est à la télé, c'est à la télé hein.
Oui, mais moi, mais tu sais que moi j'ai pendant ouais, longtemps
c'est à la télé, mais c'est des expressions que qu'on entend parfois, c'est-à-dire vous avez des clients lambda, enfin je
regarde objection votre honneur. Ah, ouais, ouais. Ouais. Et c'est
mais
américain.
Bon, voilà, c'est oui, non mais exactement, c'est ça se pratique pas dans des tribunaux français et puis vous avez des clients qui vous parlent aussi comme ça en disant vous oubliez pas de dire ça. Donc on rappelle un peu qu'évidemment, oui. C'est impossible.
Et Harry l'a gagné le gars ou pas?
Ben non, il a perdu.
Il a perdu.
Mais il est même pas de gosse, il est venu pour le délire.
Toute ressemblance avec des faits ayant existé n'est qu'une pure coïncidence, comme on dit. Alors on accueille Fatima. Bonjour Fatima.
Bonjour, moi je vous appelle parce que bon, moi j'ai un souci. Que, bon, mon agresseur a eu un jugement rendu en correctionnel au mois d'octobre 2021. Donc, il avait interdiction de paraître dans le 95 et interdiction de m'approcher. J'ai une ordonnance de protection qui n'a pas respecté non seulement le jugement rendu et non seulement aussi l'ordonnance de protection.
Mais votre agresseur, madame, c'est un membre de la famille ?
Non, c'était une ex-relation avec...
D'accord. Voilà, parce voilà. qu'il y a la notion d'ordonnance de protection.
Ça peut être un ex-conjoint, voilà, c'est ça ?
Ça peut être un ex, ça peut être le mari, enfin voilà. Mmh. On est d'accord.
Un ex-conjoint.
D'accord.
Voilà. Donc, si vous voulez, bon, comme il a continué à marceler suite au jugement et tout, donc il a été arrêté là le 10 mai, suite au renouvellement de l'ordonnance de protection, puisqu'elle arrivait à expiration. Donc... là, si vous voulez, là, il a été placé en garde à vue, le 12. Et au lieu de faire de la prison son sourcil, ils l'ont mis en centre de rétention administrative parce qu'il avait en sa possession de faux papiers.
Voilà, il est donc en situation irrégulière.
Voilà.
D'accord.
Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que c'est normal qu'il ne fasse pas son sourcil ?
Alors, le truc, c'est une sorte de deal entre l'intéressé, j'allais dire, et le procureur de la République. Le raisonnement, c'est quoi ? C'est dire, on va pas le mettre en prison, puisque si on le met en prison sur le territoire français, bah, il sera à la charge de l'État français. On préfère, entre guillemets, pardon pour le terme qui est pas joli, mais qui s'applique dans ce type de dossier, on va dire, on préfère se débarrasser de l'intéressé en le mettant dans au centre de rétention, jusqu'à ce qu'il y ait une place dans un avion et qu'il puisse retourner au pays, en tout cas être expulsé. Donc c'est ça le deal. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont placées au centre de rétention et qui finissent quand même par être libérées. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est placé au centre de rétention un temps déterminé. Et si pendant ce laps de temps, l'État français n'a pas réussi à vous expulser, vous finissez parfois par être libéré. Donc il y a aussi cet aspect-là. Donc maintenant, je pars du principe que si... cette mesure a été décidée, c'est que l'État, et en l'occurrence peut-être que le procureur de la République, a davantage d'informations et considère que ce monsieur peut faire l'objet d'une expulsion. Il est de quelle nationalité ?
Il est d'Algérie.
Bon, les autorités algériennes expulsent hein, et signent les laissez-passer, en tout cas les autorités consulaires signent les petits papiers pour que les uns et les autres soient placés dans un avion et renvoyés au pays. Donc le deal, c'est ça.
D'accord, ok. Et là, justement, je sais que par l'inspecteur, il m'a dit que le 3 juillet, il doit être auditionné concernant les faux papiers, parce que c'est faux usage de faux. Voilà, donc, monsieur, bon, utiliser des faux papiers pour pouvoir travailler. Et voilà, donc c'est pour ça que la rupture, et donc j'ai subi une agression à cause de ça, et de l'harcèlement et dégradation de véhicule à cause de la vérité, quoi.
D'accord, vous ne saviez pas qu'il y avait des faux papiers ?
Non. Et c'est qu'après que j'ai découvert parce qu'il avait une carte algérienne et une carte française.
D'accord.
Voilà, donc après je me suis débarrassée vite fait de cet individu. Et
parce qu'il avait des faux papiers ?
Oui, parce que bon, il avait une carte française qui a rajeuni 10 ans. Et c'est suite à un congé en vacances que j'ai découvert comme quoi que j'étais avec un imposteur. Voilà.
D'accord, mais c'est pas lié. Alors, pardon, comme vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, mais vous vous êtes séparés parce que vous avez découvert qu'il avait des faux papiers, c'est ça ma question ?
On s'est séparés.
Ou c'est parce que, parce qu'il a été violent, parce que...
Non, attendez. Moi, je me suis séparée de lui parce qu'une fois que je lui ai dit la vérité de ce que je savais sur lui, donc il était violent, il m'a agressé, mais étranglé. L'affaire a été classée. déjà en 2020. Et donc après, suite à ça, moi j'étais hospitalisée. Et donc je suis restée 6 mois et demi en hospitalisation. Quand je suis sortie, il a recommencé à marceler, à venir à n'importe quelle heure, à mes pieds, à venir en voiture, à me suivre partout. Donc c'est devenu ingérable.
D'accord, d'accord. Ah bah là je comprends, d'accord.
Oui, oui, oui.
Ok.
Donc j'ai fait du harcèlement pendant 2 ans. Voilà.
Donc, très bien.
Moi, je, si vous voulez, je trouve comme quoi que 3 mois de sursis, c'est rien du tout par rapport à tout ce que j'ai suivi.
Ah, mais alors, vous savez, le harcèlement, alors c'est puni pénalement, mais j'ai pas souvenir d'avoir croisé des magistrats prononçant des peines de prison fermes pour des histoires de harcèlement. Voilà, il y a des sortes d'avertissements, il peut y avoir de la prison avec sursis, il peut y avoir des amendes, et encore quand l'intéressé est solvable. Mais on n'est pas dans le raisonnement de prononcer des peines de prison fermes pour des histoires de harcèlement. On n'en est pas encore là.
Non, mais ce qui est malheureux, c'est que si vous voulez, que quand vous faites agresser, des fois, vous n'êtes pas entendu.
C'est vrai qu'il y a, non mais là c'est vrai que de toute façon Fatima, il y a beaucoup de choses hein, qui sont en train de d'avancer pour écouter la parole des femmes et des hommes qui sont agressés, mais c'est vrai que
je suis d'accord avec vous, oui.
Ça avance petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a une écoute qui est peut-être pas suffisamment attentive. Mais vous avez été harcelé, mais vous avez parlé de violence physique tout à l'heure.
Oui. Violence physique, j'ai été étranglée dans mon véhicule.
D'accord. Vous les avez fait constater ?
Ben oui, et tout ça. J'ai même eu une expertise psychiatrique parce que j'étais tellement choquée. Et que c'était classé. Donc, moi, quelquefois, je me pose la question, est-ce que vraiment on est défendu quelque part ?
Alors, il faut comprendre quand même que dans l'hypothèse. Alors, sincèrement, je ne sais pas quand est-ce que votre affaire s'est produite, mais les parquets des tribunaux font plus de cadeaux. C'est-à-dire qu'ils poursuivent systématiquement. Mais dans l'hypothèse où votre affaire avait été classée, il n'y a rien qui interdit à la victime. Donc, vous auriez pu, vous, déposer, saisir le procureur de la République pour continuer le dossier. C'est techniquement possible. Mais ce genre d'affaire, vous savez, à partir du moment où il y a des traces, le parquet poursuit systématiquement.
Qu'est-ce que vous appelez des traces ?
Faut les faire constater. Mais à partir du moment où il y a des rougeurs, où il y a des, je parle même pas de fractures ou autre, mais à partir du moment où vous pouvez faire constater ça, les procureurs de la République, les parquets poursuivent systématiquement.
Parce que si vous avez une interruption de 6 mois, si j'ai bien compris. Ah, on a perdu Fatima. Ouais, non, 6 mois, c'est beaucoup d'interruption finalement. Bon, Fatima, vous rappelez Maître Serran au numéro donc qu'il vous recommunique.
06 62 58 59 64.
Alors, il nous reste combien comme temps là ? Pas très français ma phrase, comme temps.
Je sais pas, il reste 2h30.
Non,
2h30.
Il reste 3 minutes, Maître Serran. Okay. Alors, le temps d'accueillir Ahmed. Bienvenue, Ahmed.
Oui.
Bonjour, Ahmed.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Maître Serran.
Bonjour, Ahmed.
Vous allez bien? Moi, je vais essayer de faire bref parce que je sais qu'il reste beaucoup de temps. Donc, j'ai entamé une démarche pour faire un prêt immobilier pour une première acquisition. Donc, tout s'est bien passé, la visite, ma femme elle a aimé, tout ça. Donc, on a déposé le dossier à la banque. Donc, entre-temps, le délai de rétraction, il est passé. Donc, on a eu un refus. Entre-temps, bah, on croyait qu'il était mort. Et après, comme moi j'avais posé un dépôt de garantie au notaire, ils m'ont dit qu'il fallait avoir 2 refus pour pouvoir le récupérer. Donc entre-temps, j'ai fait appel à un courtier. Et le courtier, il a fait une demande. Et moi, je pensais que c'était mort. Mais bon, il a réussi à faire obtenir c'est-à-dire pour les revenus moyens. Et quand on a fait la contre-visite, puisque comme entre-temps, il s'est passé 3 mois. Mmh. Moi, pour moi, c'était bon. Mais ma femme, vous savez, on n'a pas la même vision. Les femmes, ils sont posées à la maison. Donc, elle a vu que la maison, c'était plus la même, vu qu'elle était plus aménagée. On va dire, elle a plus kiffé, quoi, on va dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Ouais,
donc,
ouais.
Voilà. Donc, on est arrivé à un moment, c'est-à-dire que tous les délais de réaction sont passés. Et on est carrément à la fin, quasiment à la date de signature. Pour pouvoir récupérer
Et donc, je voulais avoir savoir, c'est-à-dire que nous, demain, si on refuse, c'est-à-dire qu'on ne veut plus faire, plus prendre la maison, qu'est-ce qui m'engage à enlever ma responsabilité?
Bah, vous risquez de perdre l'indemnité d'immobilisation. Parce que l'argument qui consisterait à dire moi je suis d'accord mais pas madame, c'est pas recevable en la matière. Vous êtes engagés tous les deux. Donc je crois qu'il vaudrait mieux convaincre madame.
Alors attendez, Ahmed, là vous avez noté le numéro de Maître Serran, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, Maître Serran.
Je suis joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Parce que là on est solidaire dans cette décision. Merci Ahmed, c'est vrai qu'il restait peu de temps. Merci Maître Serran d'avoir été avec nous. On vous retrouve vendredi prochain, mon petit lapin.
Oh, bah avec plaisir, mon gros chaton.
Mon gros chaton, c'est bien.
Un gros chaton, c'est doux, c'est gros sympa, chaton, c'est agréable.
Je pense à quelqu'un d'autre, moi, quand on dit gros chaton. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Merci d'avoir été avec nous, à vendredi.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.